Alors, je pourrais encore citer l'hymne du milieu du jour. Prenons celle dès l'aube du matin pour changer d'heure. Alors, qui est Splendor paternae gloriae. Splendeur de la gloire du Père, lumière exprimant la lumière, lumière et source de lumière, jour qui rend lumineux le jour. Viens à nous, soleil véritable, étincelant pour tous les siècles, pénètre nos intelligences des rayons de ton Esprit Saint. Invoquons maintenant le Père de la gloire éternelle, le Père de grâce puissante, qu'il nous préserve de tomber, qu'il dirige toutes nos forces, brise les dents de l'adversaire, dans l'épreuve qu'il nous soutienne, donne sa grâce pour agir. Qu'il gouverne et guide nos âmes en des corps chastes et fidèles, que notre foi brûle, fervente, bien loin des poisons du menteur. Que le Christ nous soit nourriture, que la foi soit notre breuvage, que nous goûtions plein d'allégresse la sobre ivresse de l'esprit. Que ce jour dans la joie s'écoule, notre pudeur soit comme l'aube, tel midi que la foi rayonne, que nos cœurs ignorent le soir. L'aurore dans sa course avance, qu'aurore tout entier paraisse. Aurore, c'est l'étoile du matin. Le Fils tout entier dans le Père, tout entier le Père en son Fils. Vous voyez, c'est une très, très belle hymne. Alors, continuons. Une autre hymne du... alors, cette fois-ci, du sanctoral de la fête de Sainte Agnès, parce qu'il a fait aussi des sermons sur les saints. C'est l'anniversaire du jour où Agnès, vierge bienheureuse, consacrée par son sang très pur, voulut au ciel rendre son âme. Elle était mûre pour mourir sans être mûre pour les noces. On croirait à son air joyeux qu'elle est conduite au mariage. Sommée de saisir un flambeau, d'embraser l'autel des idoles, elle dit « Les vierges du Christ ne prennent pas de telles torches, car un tel feu éteint la foi, sa flamme chasse la lumière. Frappez ici pour qu'à grand flot mon sang éteigne ses brasiers. » Sous les coups, quel noble maintien. En se recouvrant de sa robe, elle ploie le genou au sol et sa chute encore est pudique. Toute gloire à toi, ô Jésus, à toi qui es né de la Vierge, bon, etc. Donc vous voyez encore... Alors, toujours dans le sanctoral, prenons l'hymne des laudes de la fête de Saint-Pierre et Paul. Apostolorum Passio. La passion des deux apôtres a fait de ce jour une fête, montrant le triomphe de Pierre et le couronnement de Paul. Le sang de leur mort triomphale réunit ces héros semblables. Ils ont suivi Dieu comme un guide, la foi au Christ les couronna. Pierre est le premier des apôtres, mais Paul n'est pas moins riche en grâce. Vase de sainte élection, il égala la foi de Pierre. Simon, pour rendre gloire à Dieu, monta et resta suspendu sur une croix mise à l'envers. Il pensait aux mots de son maître. Et depuis, leur Rome a dressé le haut fait de sa piété, étant fondée par un tel sang, ennoblie par un tel héros. On croit y voir venir le monde, le peuple du ciel accourir. Toi, l'élu, c'est l'Église, tête des nations, siège du maître des nations. Puis après vient la doxologie. Donc voilà quelques-unes des hymnes. Il me semble qu'il y a aussi Magis Videntes, qui est une hymne de Noël. Ah non, c'est de Prudence. Alors, donc, quelques hymnes. Et puis pour terminer, je vais vous lire une ou deux homélies, enfin du moins des extraits. Notamment une homélie pour l'anniversaire de la mort de son frère Saturus. Nous voyons que la mort est un avantage et la vie un tourment. Ça fait bien les oxymores qu'aimaient les anciens. Nous voyons que la mort est un avantage et la vie un tourment, si bien que Paul a pu dire « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. » Qu'est-ce que le Christ ? Rien d'autre que la mort du corps et l'esprit qui donne la vie. Aussi mourons-nous avec lui, mourons avec lui pour vivre avec lui. Nous devons chaque jour nous habituer, nous affectionner à la mort, afin que notre âme apprenne par cette séparation à se détacher des désirs matériels. Notre âme, établie dans les hauteurs où les sensualités terrestres ne peuvent accéder pour l'engluer, accueillera l'image de la mort pour ne pas encourir le châtiment de la mort. En effet, la loi de la chair est en lutte contre la loi de l'âme et cherche à l'entraîner dans l'erreur. Mais quel est le remède ? Qui me délivrera de ce corps de mort ? La grâce de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons le médecin, adoptons le remède. Notre remède, c'est la grâce du Christ. Et le corps de mort, c'est notre corps. Alors soyons étrangers au corps pour ne pas être étrangers au Christ. Si nous sommes dans le corps, ne suivons pas ce qui vient du corps. N'abandonnons pas les droits de la nature, mais préférons les dons de la grâce. Qu'ajouter à cela ? Le monde a été racheté par la mort d'un seul, car le Christ aurait pu ne pas mourir s'il l'avait voulu. Mais il n'a pas jugé qu'il fallait fuir la mort comme inutile, car il ne pouvait mieux nous sauver que par sa mort. C'est pourquoi sa mort donne la vie à tous. Nous portons la marque de sa mort, nous annonçons sa mort par notre prière, nous proclamons sa mort par notre sacrifice. Sa mort est une victoire, sa mort est un mystère, le monde célèbre sa mort chaque année. Que dire encore de cette mort, puisque l'exemple d'un Dieu nous prouve que la mort seule a recherché l'immortalité et que la mort s'est rachetée elle-même. Il ne faut pas s'attrister de la mort, puisqu'elle produit le salut de tous. Il ne faut pas fuir la mort que le Fils de Dieu n'a pas dédaigné et n'a pas voulu fuir. La mort n'était pas naturelle, mais elle l'est devenue. Car au commencement, Dieu n'a pas créé la mort, il nous l'a donnée comme un remède. L'homme, condamné pour sa désobéissance à un travail continuel et à une désolation insupportable, menait une vie devenue misérable. Il fallait mettre fin à ses malheurs, pour que la mort lui rende ce que sa vie avait perdu. L'immortalité serait un fardeau plutôt qu'un profit sans le souffle de la grâce. L'âme a donc le pouvoir de quitter le labyrinthe de cette vie et la fange de ce corps, et de tendre vers l'assemblée du ciel, bien qu'il soit réservé aux saints d'y parvenir. Elle peut chanter la louange de Dieu, dont le texte prophétique nous apprend qu'elle est chantée par des musiciens. « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car toi seul es saint. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi. » Et l'âme peut voir tes noces, Jésus, où ton épouse est conduite de la terre jusqu'aux cieux, sous les acclamations joyeuses de tous, car vers toi vient toute chair, ton épouse qui n'est plus exposée aux dangers du monde, mais unie à ton esprit. C'est ce que le saint roi David a souhaité, plus que toute autre chose pour lui-même, c'est ce qu'il a voulu voir et contempler. La seule chose que je demande au Seigneur, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie et de découvrir la douceur du Seigneur. Voilà, donc on voit bien l'ambivalence de la mort qui est à la fois une punition et une catastrophe, et en même temps, par un renversement dialectique initié par le châtiment d'abord, puis par celui qui va prendre le châtiment sur lui, qui devient la source de la vie. Vous vous souvenez que Tolkien dira que fera dire à ces elfes immortels que ça leur est un fardeau plus insupportable que la vie limitée des êtres humains qui peuvent s'échapper à ce renouvellement boring, ennuyeux de la vie terrestre. C'est vrai qu'on finirait par s'ennuyer. Pareil. C'est d'ailleurs surtout à la fin, oui. Et c'est ce que n'ont probablement pas compris tous ceux qui veulent transformer, les tenants du transhumanisme, qui veulent rester enchaînés au cercle de ce monde sublunaire. Et alors, j'ai terminé par un autre sermon, enfin d'ailleurs qui n'est pas un sermon, mais qui est une lettre. Alors, une lettre par laquelle Ambroise, évêque, s'adresse à un jeune évêque pour le former dans sa tâche. Ambroise à Constance, son frère dans l'épiscopat. Tu as reçu la charge du sacerdoce. Assis à la poupe du navire de l'Église, tu le gouvernes au milieu des flots. Tiens la barre de la foi, afin que les dures tempêtes de ce monde ne réussissent pas à te faire dévier. La mer est grande et vaste, mais ne crains rien, car c'est le Seigneur qui a établi le monde sur les mers et l'a fondé sur les fleuves. Il n'est donc pas étonnant que dans les remous du monde, l'Église du Seigneur demeure inébranlable, puisqu'elle est bâtie sur la pierre de l'apôtre et qu'elle demeure sur sa fondation infrangible, malgré les assauts de la mer en furie. Les flots l'inondent sans pouvoir la secouer, et bien que les éléments de ce monde en s'entrechoquant fassent retentir souvent un grand vacarme, elle peut cependant offrir aux hommes en détresse un havre de salut parfaitement sûr. Cependant, si elle est ballottée par la mer, elle court avec les fleuves. Tu comprends qu'il s'agit de ces grands fleuves dont il est dit « les fleuves ont élevé leur voix ». Ce sont en effet des fleuves qui couleront de son sein. Alors vous voyez, enfin, si j'ose dire, la cascade des versets bibliques qui s'en mêlent, qui se chevauchent. Donc vous trouvez avec les psaumes, ensuite vous avez une citation de saint Jean. Bon, ce sont en effet des fleuves qui couleront de son sein. Il s'agit de celui qui recevra la boisson donnée par le Christ et qui s'abreuvera de l'Esprit Saint. Ce sont donc ces fleuves, lorsqu'ils débordent de la grâce de l'Esprit, qui élèvent leur voix. Ça, c'est un psaume, hein. Il y a aussi un fleuve qui inonde les hommes de Dieu comme un torrent, un fleuve dont l'élan réjouit l'âme pacifique et tranquille. Celui qui bénéficie de ce fleuve abondant, comme Pierre et Paul, élève la voix. Et de même que les apôtres, par leur voix sonore, ont répandu jusqu'aux extrémités de la terre, psaume 18, la prédication évangélique, celui-là aussi se met à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Écoute donc la parole du Christ pour que ta voix se répande. Recueille l'eau du Christ, celle qui loue le Seigneur. Rassemble l'eau qui vient d'oraisons divers et que répandent les nuées, symbole des prophètes. Celui qui recueille l'eau des montagnes, psaume 34, qui attire à lui ou qui boit l'eau des sources, la répand lui aussi comme une nuée. Remplis donc de cette eau les profondeurs de ton esprit pour que ta terre s'en imprègne et soit irriguée par ses propres sources. Donc celui qui lit et qui comprend beaucoup de choses se gorge d'eau, et une fois qu'il en est gorgé, il la déverse sur les autres. C'est pourquoi l'Écriture dit « Si les nuées sont pleines de pluie, elle la déverse sur la terre ». Que tes discours soient donc abondants, qu'ils soient purs et transparents. Ainsi, dans ton enseignement moral, tu verseras dans les oreilles de tes auditeurs beaucoup de douceur, tu charmeras ton peuple par la grâce de tes paroles, et il te suivra volontiers là où tu le conduis. Vous voyez, c'est déjà toute la mesure bénédictine qui est anticipée. C'est vraiment l'esprit latin de la mesure de la discrétion. Que tes paroles soient pleines de sagesse. Salomon dit en effet, les armes de l'intelligence sont les lèvres du sage. Et ailleurs, que tes lèvres s'attachent à la science, c'est-à-dire que le sens de tes discours soit évident, que leur signification soit claire, que ta parole et ton exposé n'aient pas besoin d'être appuyés par une affirmation extérieure, mais soient garantis par leurs propres armes. Que nulle parole privée de sens ne sorte de ta bouche pour se perdre dans le vide. C'est tout l'idéal du lettré latin, là encore, la sobriété, la brièvitas, l'imperatoria brevitas, que finalement il a connu en tant que haut fonctionnaire de l'Empire. Toute la concision latine qu'on trouve dans les oraisons de la liturgique, qu'on trouve aussi dans ces vers de la poésie latine. Enfin voilà, donc pour saint Ambroise, alors je vais m'arrêter là, et puis après on va passer à un personnage haut en couleur, venu des Balkans, Vous avez reconnu
Jérôme.
Jérôme de Stridon. Jérôme à la voix stridente, parfois, et aux amitiés difficiles.
Il n'y a pas cours la semaine prochaine.
Alors, la semaine prochaine, oui.
Ouais, pas cours. Non, c'est pas la messe d'Action de Grâce.
Ah oui, oui, parce que c'est... Parce que c'est le jeudi du Saint-Sacrement. C'est la... Et alors, donc, ceux qui sont allés...